Les colloques du Collège de France.
Merci beaucoup. Et tout d'abord, un grand merci à Dominique Charpin pour cette organisation. Et donc, aujourd'hui, je vous parle des métaphores et comparaisons animalières dans les lettres de Marie. Fort comme un bœuf, muet comme une carpe ou bien doux comme un agneau, les figures animalières nourrissent encore notre langage. Ces images font écho à celles des textes cunéiformes. De fait, les proverbes sumériens mettaient déjà en scène un vaste bestiaire pour illustrer des comportements humains, révélant une vision largement anthropocentrée de la faune. Les textes mythologiques et les inscriptions royales offrent également un observatoire privilégié de l'utilisation de la figure animale qui permet de caractériser les individus, tantôt de façon élogieuse, tantôt comme procédé de dévalorisation. Mais qu'en est-il des lettres de Marie, corpus a priori plus proche de la réalité quotidienne que les textes littéraires? Que révèlent ces lettres des représentations culturelles de la faune et plus largement du rapport homme-animal à l'époque paléo-babylonienne? Un premier inventaire du corpus publié permet de recenser une vingtaine d'exemples. On y trouve aussi bien des animaux emblématiques, comme le lion, le taureau, que des bêtes du quotidien, chiens, moutons, porcs ou poissons, ou encore des espèces plus surprenantes, sauterelles, fourmis, vers de terre. Cette communication propose un tour d'horizon de ces images animalières sans prétendre à l'exhaustivité, puisque d'autres exemples seront développés dans la publication. Plutôt qu'une approche taxinomique, donc animal par animal, nous privilégierons aujourd'hui une approche fonctionnelle en regroupant ces images par objectifs discursifs. On s'intéressera ainsi plus particulièrement à l'expression de l'indignation, à la sollicitation de la pitié et enfin à la dénonciation des agissements répréhensibles. Nous commencerons par les comparaisons qui ont pour objectif d'exprimer l'indignation face à un traitement jugé injuste ou cruel. Par exemple, dans ARM 276, Laoum, serviteur des Imrilim, alerte son seigneur sur la différence de traitement réservée aux Mariottes par rapport aux Yamradéens lors d'une réception chez Amourabi. Toute la délégation d'Alep semble en effet avoir reçu des habits de cérémonie, ce qui n'est pas le cas de celle de Marie. Laoum rapporte le discours qu'il a alors tenu à Sinbelaplim. Pourquoi cette ségrégation de ta part envers nous comme si nous étions des fils d'autrui? Nous, de qui sommes-nous donc les serviteurs et les secrétaires? Et eux, de qui sont-ils? Nous tous, nous sommes serviteurs d'un roi de premier rang. Pourquoi faites-vous étrangère la droite de la gauche? Laoum souligne ici l'égalité des deux ambassades en les assimilant respectivement à la droite et à la gauche, une image qui s'oppose directement au traitement discriminatoire des Mariottes, vécu comme une véritable insulte. Le recours au porc illustre parfaitement ce sentiment d'ostracisation. En Mésopotamie, le porc est un animal méprisé en raison de ses comportements, se nourrit des déchets, il se roule dans la fange, il est aussi perçu comme lubrique et parfois agressif. Autant de traits bien documentés dans les textes cunéiformes. Plus que dénoncer une mise à l'écart, le recours à la figure animale permet aussi de mettre en lumière le traitement inhumain réservé à certains individus. La lettre ARM 3595 présente un exemple emblématique de ce procédé de déshumanisation. Dans cette lettre, Sameta rapporte à Zimrilim les reproches adressés par Derdi Radoun, le roi d'Abatoum, ainsi que par le conseil Tartamoum à l'encontre de Soumou Rabi, un haut fonctionnaire mariotte. Ces critiques concernent le massacre de l'escorte d'une caravane de marchands d'Emar à un poste de contrôle. Le texte relate l'exécution de la manière suivante. Il a fait le rassemblement pour vous des 40, la soldatesque. Et une fois que chacun des jarres de vin, ils eurent fait sortir à votre intention de leur chariot et que vous eûtes bu la coupe, alors vous les avez examinés. Vous les avez saisis et ces gens vous les avez tués. Or, lorsque ces gens vous les avez tués, vous ne les avez nullement tués d'un coup d'arme. C'est une mort infamante qu'ils ont connue. Et ces gens, pourquoi les avez-vous rassemblés comme du mouton goukaloum ou de simples moutons, alors que vous avez fait connaissance, vous les avez tués? La lettre insiste sur le procédé. L'escorte a été rassemblée comme des moutons examinés avant d'être massacrés. Ces moutons goukaloum à queue grasse sont bien attestés dans les textes de Marie. Ils étaient notamment destinés aux offrandes divines ou à la table royale. La lettre souligne la mauvaise mort réservée à l'escorte qui a subi le même sort que les ovins, animaux de boucherie par excellence. Il faut certainement supposer ici des atteintes corporelles importantes, des mutilations privant les défunts du repos dans l'au-delà. Par ailleurs, l'assimilation des moutons à ces hommes avec lesquels on avait fraternisé autour d'une coupe de vin, acte éminemment symbolique, renforce la cruauté et la traîtrise de ce massacre. Sans surprise, l'image des moutons est réemployée dans la rhétorique assyrienne pour évoquer les exécutions ou encore les captifs qu'on rafle, qu'on compte et qu'on se répartit lors des campagnes militaires. Les moutons renvoient à la multitude, aux troupeaux indifférenciés. L'image reflète donc le peu d'estime accordée à l'ennemi. Ces deux exemples, avec le porc et le mouton, montrent comment l'imagerie animalière peut servir à la déshumanisation et révèle le statut intrinsèquement inférieur accordé à l'animal. Outre exprimer l'indignation, la figure animalière permet également de souligner la faiblesse d'un individu dans le but d'inspirer la pitié. FM 1623 livre un exemple de choix. Dans cette lettre, un dénommé Sidki Epour se plaint à Zimrilin de ne pas avoir reçu les tenures nécessaires à sa subsistance et à l'entretien de ses bêtes. Il écrit « Dis à mon Seigneur, ainsi parle Sidki Epour, ton serviteur. Mon Seigneur m'a placé à un poste important. Je ne suis pas assez fort. Comme le Dieu qui appelle l'humanité, à présent, moi, vers deux terres vivant dans la base du mur, mon Seigneur, dans sa divinité, m'a touché le menton et m'a renvoyé chez les hommes. Or, je ne possède rien du tout. Mon Seigneur m'a fait monter sur un char, mais avec quoi nourrirai-je la monture? Et le bœuf pour la taxe Igisum, avec quoi le nourrirai-je? » La suite de la missive exhorte Zimrilim à lui céder les terres avant la fin de la moisson pour que Sidki Epour n'ait pas à emprunter. Ici, la comparaison avec le ver de terre, animal insignifiant, rampant et démuni, est doublée par la flatterie du souverain comparée à la divinité lorsqu'il a élevé la condition de Sidki Epour, sans pour autant lui octroyer les avantages inhérents à sa fonction. On est donc dans un discours courtisan par excellence. Le texte A3655, à ma connaissance non publiée, fournit un exemple supplémentaire de ce discours courtisan. Le contexte et l'extrait qui nous intéressent sont donnés par Jean-Marie Durand dans un article de 2006. Et dans cette lettre, un serviteur de Zimrilim se compare à un bœuf qui aurait été négligé et sauvé de la mort par le souverain. Ici, l'image de la faune domestiquée, dépendante de l'homme, a pour fonction de creuser l'écart hiérarchique entre le roi et son serviteur. Enfin, dans la même veine, certaines complaintes adressées au souverain utilisent la figure du chien livré à lui-même, comme la lettre ARM 1032, où l'on peut lire « Je suis sans force, on m'a fait sortir de chez moi, on estime plus un chien que moi ». On notera que ce motif du chien est également utilisé dans le sud mésopotamien, comme à Nippur, dans la lettre suivante. « Par ailleurs, je n'ai pas de vêtements pour m'habiller. Je t'avais imploré de me donner un manteau, mais tu ne t'es pas apitoyé. Tu m'as négligé comme un chien. Que mes larmes et lamentations montent vers toi. Puisque je n'ai pas quelqu'un qui me nourrit, je serai bientôt mort. » La comparaison avec le chien souligne à la fois l'injustice dont l'individu s'estime être victime, tout en affirmant la supériorité du Seigneur, littéralement, maître du destin de son sujet. Concernant le chien, on fera d'ailleurs à cette occasion le parallèle avec le porc, hein, les deux animaux partageant la même mauvaise réputation en Mésopotamie en raison d'un certain nombre de traits comportementaux communs. D'autres images visant à provoquer la pitié ne sont pas fondées sur les rapports de force entre hommes et faune, comme exposé à l'instant, mais sur l'observation de comportements naturalistes. Celle de l'oiseau apeuré a rencontré un certain succès à l'époque paléo-babylonienne, et celle-ci accompagne généralement une demande de protection. Comme dans la lettre suivante, adressée par Zimrilim à son beau-père, le roi d'Alep. Cette missive évoque un forgeron accusé de vol qui s'est fait dépouiller de son butin à Aymar et qui s'est réfugié à Marie pour échapper à la mort. Zimrilim refuse de le livrer et propose un compromis. Voici l'extrait qui nous intéresse. « Maintenant, mon père, donc Yarimlim, m'a écrit à son sujet réclamant le renvoi d'un homme qui s'est réfugié chez moi, à l'endroit même où va l'oiseau fugitif, qui fuit devant l'oiseau de proie. Abandonnerai-je cet homme? Si je l'abandonne et qu'ensuite on l'apprenne, comment se réfugiera-t-on chez la déesse bénissante? » L'évocation du volatile réfugié a pour objectif de provoquer la pitié, tandis que l'oiseau de proie pourrait soit renvoyer à la figure de Yarimlim, frappant ainsi la puissance du souverain d'Alep, soit plus généralement au destin funeste qui attend le forgeron s'il est livré. La même comparaison apparaît dans RM 3591, lettre dans laquelle deux sujets requièrent la protection d'Imrilim face à Dadi Radoun, un vassal d'Alep et de Marie. Après avoir sollicité sans succès le roi d'Alep, ils se tournent vers Zimrilim et écrivent « À cause de Sarbarum, Dadi Radoun ne cesse de nous traiter indignement. Alors, comme un oiseau affolé, nous avons eu peur devant lui. » Un peu plus loin, on peut lire « Maintenant, cet individu nous traque. Notre Seigneur doit faire savoir par messager à Dadi Radoun d'arrêter de nous persécuter. » L'image est particulièrement bien choisie, puisque certains rapaces, comme les faucons, sont connus pour traquer leur proie. Ces comparaisons semblent être le fruit d'une observation attentive de la nature. Les oiseaux sauvages sont difficiles à approcher, et lorsqu'ils sont poursuivis ou piégés, ils sont sujets à la panique, une réaction très visible. Ceci explique probablement que l'image soit documentée bien plus au sud, à Sipparam Nanoum, mais également près d'un millénaire plus tard, dans les inscriptions royales assyriennes. En effet, les fuyards y sont fréquemment comparés à des volatiles apeurés, tandis que le souverain est parfois assimilé à un rapace, comme dans cette inscription de Sargon II. Oursa, leur prince, celui qui a transgressé les limites de Shamash et de Marduk et qui n'a pas honoré son serment envers Achour, a pris peur du vacarme de mes armes puissantes. Et, comme la perdrix s'enfuyant devant l'aigle, son cœur battait la chamade. Ici, cependant, le motif de l'oiseau traqué et effrayé n'est pas utilisé pour provoquer la pitié, mais pour rabaisser l'ennemi et forger l'image d'un roi assyrien redoutable et redouté. Évidemment, ce retournement de situation est redevable aux objectifs très différents de ces textes. Enfin, d'autres images mêlent étroitement observation naturaliste et symbolique. C'est le cas des comparaisons avec l'oiseau Kadoum, volatile d'abord identifié avec une chouette et désormais plutôt avec une perdrix des sables. Au moins deux lettres de Marie associent cet oiseau à la tristesse et aux lamentations. Et l'une d'elles note « Le pays tout entier est prostré faute de moutons mis à la prairie, donc par Galoum. Et moi-même, je crie nuit et jour comme un oiseau Kadoum. Puissais-je ne pas mourir ?» L'habitat désertique de la perdrix des sables a probablement conduit à son association avec les paysages désolés et par corrélation les lamentations. Dans les textes divinatoires, le chant de cet oiseau, résonnant dans les ruines, confère au volatile une valeur omineuse qui explique son nom sumérien, signifiant littéralement « oiseau de ville détruite ». Enfin, cette image phonique peut également être mise en œuvre pour dénoncer le comportement condamnable de certains individus et stigmatiser leurs défauts. L'image employée par Banoum dans RM 26.5 pour décrire la conduite d'un serviteur à son souverain Zimrilim est très évocatrice. Belchounou y est comparé à un porc engraissé pour la boucherie du roi. Ici, ce sont la gloutonnerie et l'oisiveté du serviteur qui font l'objet des reproches. Le porc est un animal vorace et opportuniste qui consomme des ressources sans en produire, son seul produit étant sa propre viande. Belchounou est donc dépeint comme un parasite vivant au crochet du souverain. Alors, si l'on pouvait s'attendre à ce qu'une comparaison avec le porc soit peu flatteuse, celle avec le lion, animal généralement considéré comme noble, ne s'avère guère plus élogieuse dans FN 9-17. Dans cette lettre, attribuée à Rishiya, le chef de musique se défend auprès du roi du retard pris par ses apprentis. Son seigneur lui avait adressé le reproche sur le ton sentencieux d'un proverbe en écrivant « Le lion ne laboure pas, il gêne les laboureurs ». Face à ces accusations, le musicien riposte avec véhémence. « À présent, moi, dans ta maison, n'ai-je donc pas produit de bons résultats ? C'est donc l'autre, celui qui m'a calomnié auprès de mon seigneur, qui est devenu le bon laboureur, et moi, le lion qui gêne les laboureurs. C'est moi qui ai créé les bonnes choses dans ta maison. L'autre est celui qui a ruiné les bonnes choses de ta maison depuis qu'il est arrivé. » Alors, doit-on voir ici une critique de la pédagogie jugée trop sévère et intimidante de Rishiya ? Quoi qu'il en soit, cette image n'utilise pas le registre emblématique, symbolique, souvent associé au lion en Mésopotamie, mais se fonde sur la réalité quotidienne. De fait, plusieurs lettres de Marie attestent la présence de lions aux abords de villes et documentent les attaques qui perturbent les activités humaines. Il en est de même pour le recours au loup pour décrire le comportement des pires troupeaux dans RM 33-147. Ils, donc les Bédouins, ont réalisé le piège de ces ovins, et comme un loup, chacun eut au fait d'emporter son butin et de partir. Donc on est ici encore dans une observation tout à fait naturaliste. Par ailleurs, le recours à la faune est un moyen privilégié d'illustrer les comportements hostiles et imprévisibles des ennemis. Ainsi, plusieurs lettres de Marie qualifient des opposants de scorpions ou de serpents, deux animaux venimeux perçus comme agressifs, mais également furtifs et maîtres dans la dissimulation. Les animaux considérés comme fourbes conviennent donc particulièrement bien à la description des comploteurs. Le chien est également employé dans le même contexte, non pas pour sa sournoiserie, mais pour son agressivité et son imprévisibilité, comme dans ARM 3.18. Dis à mon seigneur, ainsi parle Qibri Dagan, ton serviteur. J'ai appris l'affaire, plutôt mauvaise, et m'en suis fort inquiétée. À l'endroit de ce sanglant fait divers, que Dagan le veuille détruire. Ce n'est pas une petite troupe qui en est venue aux mains, mais bien plutôt une importante. Et Elioum, le fautif qui a été impliqué dans ce sanglant fait divers, cherche une échappatoire. Il est comme un chien enragé, je ne sais où il va mordre. Il convenait d'ailleurs d'apporter une réponse adaptée à ce type de comportement, ainsi que le révèle ARM 2832, qui traite d'une toute autre affaire, mais dont le rapprochement avec la lettre précédente me semble éclairant. Ainsi, la lettre suggère, je cite, de traiter cet individu comme un chien afin qu'il ne puisse se tourner à droite ou à gauche. On a donc le rapport de domination à la faune qui refait surface avec cette volonté, littéralement, de contenir l'individu insoumis comme un animal domestiqué. Enfin, je terminerai ce panorama par la lettre ARM 3413. Cette missive, adressée à Soumoudabi, roi de Michlam, actuel Tel Ramadi, alerte le souverain sur la menace d'un raid mené par Zimrilim en ces termes. Dis à notre Seigneur, ainsi parle Yamsiranou, Mashoum et Rami Essim, tes serviteurs. Notre compère, donc il s'agit d'Zimrilim, tel un boisseau rempli de sauterelles, est sans cesse en mouvement. Lance de bronze, bouclier et attirail de combat. Voilà ce qu'il fait livrer quotidiennement. Nous avons envoyé un individu qui s'est faufilé et en quête faite, il nous a fait un rapport. Il, Zimrilim, est en train de fabriquer des tours de siège. Dieu brise ses armes. Son but, c'est ici, donc Michelin. Et en outre, c'est le moment de la moisson. Notre Seigneur ne doit pas rester inactif. Cette comparaison avec un contenant rempli de sauterelles évoque plusieurs idées. La première est celle de l'agitation et de la multitude avec l'utilisation du pluriel appliqué aux insectes. Et si la comparaison décrit le comportement de Zimrilim, elle évoque également implicitement l'effervescence de la troupe militaire affairée dans ses préparatifs. L'image saisit bien l'excitation des sauterelles prisonnières cherchant à s'échapper du contenant. L'autre idée qui émerge en arrière-plan est celle d'un danger imminent pour les récoltes avec l'insistance sur le moment de la moisson. De fait, on peut imaginer combien un assaut, alors que les récoltes sont encore sur pied, serait catastrophique. Cette comparaison est directement inspirée par la menace réelle des invasions de sauterelles, un fléau bien documenté par les lettres de Marie. Par ailleurs, cette image de l'invasion de sauterelles associée à la destruction des champs provoquée par un assaut militaire perdure, puisqu'elle est présente, encore une fois, dans les inscriptions royales assyriennes. Par exemple, lors de la prise d'Aniashtania par Sargon II, le souverain indique qu'après avoir incendié la ville, ouvert grenier et entrepôt afin que les troupes s'y servent, il a lâché les animaux du camp militaire sur les prairies qui ont, telle une nuée de sauterelles, arraché les plantes et laissé les champs dévastés. Dans d'autres inscriptions, les sauterelles renvoient aux troupes armées, évoquant leur nombre, aussi le caractère irrépressible et fulgurant de l'attaque. Donc on retrouve une certaine permanence dans cette image employée dans notre lettre de Marie à RM 3413. À l'issue de ce premier tour d'horizon, il est déjà possible de dresser le bilan suivant. Les lettres, y compris celles qui n'ont pas été présentées pour des raisons de temps, révèlent une utilisation essentiellement négative de la figure animale. À ce titre, le corpus épistolaire se distingue des textes littéraires qui, eux, valorisent l'animal dans sa symbolique et ses qualités emblématiques, notamment pour dresser des descriptions élogistes du souverain. Ainsi, dans l'épopée de Zimrilim, le roi est qualifié de taureau sauvage de combat, de cheval ou encore de léopard de combat, vantant sa puissance, sa vélocité et sa combativité. Dans les lettres étudiées aujourd'hui, l'animal est employé pour rabaisser le comparé, soit pour qu'on s'indigne de sa déshumanisation, soit au contraire pour élaborer un discours courtisan en soulignant la différence hiérarchique. L'animal sert également à illustrer les comportements les plus vils, faiblesse, gloutonnerie, oisiveté, agressivité, fourberie. Par ailleurs, les images ayant recours à la faune domestiquée mettent en exergue la dépendance de l'animal par rapport à l'homme qui le nourrit et qui a également le droit de vie et de mort sur lui. C'est de ce rapport déséquilibré qu'a tiré le caractère négatif de cette utilisation de la figure animale. Concernant la faune sauvage, ce sont les comportements les plus redoutés par l'homme, prédation, agressivité, imprévisibilité, qui ont retenu l'attention. In fine, toutes ces images attestent la grande proximité des hommes avec la nature et mettent en lumière la cohabitation, parfois difficile, avec certaines espèces animales. Ce corpus éclaire les rapports de force entre hommes et animaux au Proche-Orient ancien, qui oscille entre faune domestiquée dominée et faune sauvage menaçante et redoutée. Enfin, nombre de ces images étant basées sur des observations concrètes puisées dans le quotidien, il n'est guère étonnant d'en observer leur pérennité au fil des millénaires. Je vous remercie pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.